Voilà, donc je suis effectivement très content d'être là ce matin. J'ai eu des angoisses. J'avais pris de l'avance pour prier avec José, qui m'avait convié à un moment de prière avec lui avant la prédication. Et je me suis perdu dans les montagnes, je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête. J'ai suivi les indications de Michelin, mais Michelin m'a égaré. Et donc j'ai tourné, puis il pleuvait, donc il n'y a personne dans les rues ce matin. J'ai dû arrêter des gens dans leur voiture. Et deux personnes m'ont enseigné, ils m'ont dit qu'il faut aller à la Praille. J'ai trouvé le chemin de la Praille. Arrivé à la Praille, je cherche le parking, je ne sais pas par où rentrer. Et puis je vois deux barrières jaunes, donc je me mets devant les barrières jaunes qui ne se lèvent pas. Et il y a un taxi derrière moi, donc je descends de la voiture, je demande au taxi ce qu'il faut faire. Il me dit, je passe devant, je vous ouvre. Donc je suis le taxi passe, les barrières se referment. Et le taxi s'en va. Donc j'ai tourné encore, puis je me suis garé quelque part. Je ne sais pas si j'ai le droit, on verra bien. Le Seigneur gardera ma voiture, c'est la sienne de toute façon. Il s'en occupera aussi bien mieux que moi. Donc finalement je suis là et je suis heureux d'être arrivé. Je suis en Suisse. J'étais un peu stressé aussi, j'avais peur de ne pas respecter les réglementations de vitesse, d'autant plus que je viens d'écouter une partie d'un message de votre pasteur qui parlait de radar. Donc je faisais attention. J'ai vu aussi que les feux tricolores, je me suis souvenu que les feux tricolores parlent d'une langue différente ici. C'est tu es arrêté, tu es prêt, tu vas bientôt y aller et tu y vas. D'accord ? Chez nous, en France, c'est plus rapide. Donc, voilà, c'est un petit peu différent. Donc ensuite je suis arrivé dans le centre, je suis monté dans un centre commercial, ce qui est à côté, on est je crois dans le centre commercial d'ailleurs, c'est une aile du centre commercial. Je suis arrivé au deuxième étage, c'était écrit Christ, mais je crois que c'était pas le bon endroit, c'était pour des montres, je pense que c'est un magasin de montres. Donc j'ai été voir deux jeunes hommes avec des valises, je leur ai dit « je cherche l'hôtel Ramada, do you speak English ?» me disent-ils. J'avais pas le temps de jargonner en anglais, comme je ne parlerais pas très bien. Et puis finalement me voilà. J'ai croisé deux amis qui arrivaient avec une poussette. J'ai entendu les voix et je suis là. Donc je suis content. Donc mon épouse, Marie et mes enfants ne sont pas là. Ils seraient bienvenus, mais ils sont fatigués du voyage. Et ma femme est particulièrement fatiguée en ce moment. Si vous avez à cœur de prier pour nous, nous en serions reconnaissants. J'ai donc trois enfants qui s'appellent Matteo, Maeva et Manoa, les M&M's, pour aller plus vite. Voilà, ils ont 7 ans et demi... 6 ans et 4 ans et demi. Donc nous sommes très contents, nous sommes hébergés chez John. On passe d'un petit appartement de 66 mètres carrés à une grande maison. Et c'est vraiment, vraiment très, très agréable. On remercie John et sa famille pour la confiance qu'ils nous font de nous prêter leur maison. Alors, je ne sais pas comment vous prenez la température en Suisse. Je pense que c'est pareil qu'en France. Quand vous voulez savoir quel temps il fait dehors, vous prenez un thermomètre, vous consultez un thermomètre et vous lisez ce thermomètre qui vous indique s'il fait chaud, s'il fait froid et la manière dont vous devez vous couvrir pour sortir. Pour savoir si nous aimons la parole de Dieu, vraiment, si nous l'aimons vraiment, moi j'ai un autre thermomètre. Et ce thermomètre, il n'indique pas 39, 40, mais il indique 119. Ce thermomètre, c'est tout simplement le psaume 119. Et ma méditation ce matin va porter sur ce psaume, dont je vais citer un certain nombre des versets. C'est un psaume qui est écrit de manière alphabétique, une forme dite acrostiche, qui a donc été soigneusement élaboré par son auteur. On pense que c'est David, on n'en est pas entièrement convaincu. En tout cas, c'était un homme qui était connu, qui avait une place, une position particulière, tel que nous le décrit ce psaume, tel qu'il se décrit dans ce psaume. Mais c'est un psaume qui a été élaboré, soigneusement ciselé, pour que tout ce qui est contenu soit propice à la méditation, à la réflexion et à l'application. La longueur de ce psaume est proverbiale, c'est bien connu, le psaume 119 est très long. Cela souligne bien évidemment son importance. Et au travers de l'importance de ce psaume, c'est l'importance du thème qui est évoqué, qui est souligné. Le thème, centrale, c'est la parole de Dieu. La place, le rôle, l'importance, la centralité de la parole de Dieu dans la vie du croyant et dans la vie de son peuple. Il y a quelques mois, à Versailles, donc à côté de chez moi, j'habite à 7 km du château de Versailles, il y a eu un grand rassemblement des 40 cuisiniers les plus importants du monde. Parce que la gastronomie française a été placée au patrimoine de l'humanité. Je ne sais pas si vous le savez, on dit que les Français sont assez fiers. J'espère que j'en fais une démonstration éloquente. Bon, ce n'est pas ma manière de cuire les œufs qui a été célébrée ce jour-là. C'était vraiment l'histoire et le patrimoine, la tradition culinaire française. Et donc 40 cuisiniers du monde entier pour célébrer l'événement se sont rassemblés à Versailles. Et j'ai noté le témoignage d'un de ces cuisiniers, dont je ne me souviens plus de nationalité, qui a dit « Versailles, wow, c'est vraiment formidable Versailles ! Les cuisines sont absolument gigantesques, le cadre est merveilleux, il est formidable, même si on ne peut rien cuisiner sur place. » En effet, les cuisines n'étaient pas appropriées pour ce type de rencontre, de défis culinaires auxquels allaient se plier tous ces cuisiniers. Mais le cadre en lui-même, le lieu, qui connaît Versailles, qui a déjà été à Versailles ici ? Levez la main que je vois un peu. Voilà. Qui connaît Marly-le-Roi ? Y a-t-il des Marlichois ? D'accord. Ok. C'est beau Marly, n'est-ce pas ? Très beau. Marly-le-Roi, c'est la ville résidentielle du roi Louis XIV. C'était la ville résidentielle du roi Louis XIV lorsqu'il régnait et qu'il vivait sur Versailles. Il s'était construit un petit château qui était rasé à la Révolution. Et pour l'anecdote, la toute première fois où j'ai vraiment entendu l'évangile de manière significative, c'est sur les ruines de ce petit château de Versailles. Et quand on sait le traitement qu'a fait subir Louis XIV pour ceux qui étaient chrétiens, c'est un petit clin d'œil du Seigneur. Alors bon, bref, au château de Versailles, ces cuisiniers sont rassemblés, ces merveilles de ce cadre magnifique, mais il n'y a pas tout ce qu'il faut pour eux, il n'y a pas toutes les cuisines pour qu'ils puissent faire leur travail. Ils sont obligés de faire ça avant, de faire venir, et puis éventuellement de réchauffer avec toutes sortes de systèmes. Le psaume 119, on peut s'en émerveiller. On peut trouver ce psaume comme le joyau de la parole de Dieu, comme le trésor, comme la pépite des psaumes, et puis le lire de cette manière-là, en célébrant sa beauté, l'érudition qu'il traduit. On peut faire cela, on peut s'arrêter à ce stade, mais on peut aussi aller plus loin. On peut aussi faire notre cuisine, d'une certaine manière, avec le Seigneur, et en retirer tout le bénéfice, ou en tout cas une bonne partie qu'il veut nous en donner. En lisant ce psaume, j'ai été frappé de noter l'amour du psalmiste pour la parole de Dieu. J'ai été frappé par toutes les citations qu'il fait à ce sujet. Je vais les citer assez rapidement, vous aurez, je pense, du mal à suivre dans vos Bibles, mais ce que je vous encourage à faire, c'est cette semaine ou dans les semaines qui viennent, de relire ce psaume 119 pour vous-même. Ce psalmiste dit, verset 45, « Je pourrais vivre dans la vraie liberté, car j'ai à cœur de suivre tes préceptes. » Au verset 35, « Fais-moi marcher sur le sentier de tes commandements, car je m'y plais. » Un peu plus loin, au verset 113, « Je déteste les indécis, et c'est ta loi que j'aime. » Au verset 119, « Tu ôtes comme des scories tous les méchants qui vivent sur la terre. C'est pourquoi j'aime tes édits. » Au verset 140, « Oui, ta parole est éprouvée. C'est pourquoi ton serviteur l'aime. » Nous pourrions tous, je pense, en tout cas la plupart d'entre nous ici, dire de telles choses. Nous aimons la parole de Dieu. Nous sentons tous, je pense, une affection particulière pour cette parole par laquelle nous avons pu comprendre l'Évangile et accepter le salut de Dieu. Comme le psalmiste le dit, nous avons à cœur, expression qu'on rencontre beaucoup dans nos milieux chrétiens évangéliques, avoir à cœur quelque chose. En tout cas en France, en Suisse, je ne sais pas, je ne connais pas les expressions en usage. Nous avons à cœur la parole de Dieu. Et quand on nous en parle, nous sentons bien que nous avons avec elle un lien tout à fait particulier. La parole de Dieu fait partie de notre existence. Elle est notre identité. Elle est notre patrimoine. Le patrimoine de la divinité et non plus de l'humanité. La Bible occupe un rang élevé. Nous avons vraisemblablement plusieurs versions, plusieurs traductions. Mais jusqu'à quel point l'aimons-nous ? Nous aimons la parole de Dieu ? Vraiment ? Comment et dans quelle mesure l'aimons-nous ? Regardez encore ces versets dans le psaume 119. Verset 16. Je trouve un grand plaisir dans ce que tu prescris. Verset 24. Tes ordres font tout, tout mon plaisir. Verset 97. Oh, que j'aime ta loi! Je la médite tout le jour. Verset 40, écoutez bien, dans la version du Semeur, Bible du Semeur. J'ai une vraie passion pour tes commandements. Verset 159. Considère, ô Éternel, combien j'aime tes ordonnances. Dans ton amour, sauve ma vie. Verset 167. J'obéis à tes ordonnances, car je les aime infiniment. Le psalmiste aime la parole de Dieu, il l'écrit, il l'aime de manière passionnée, de manière infinie. La parole de Dieu est ce qui, dans sa vie, lui procure le plus haut degré de satisfaction. L'obéissance à la parole de Dieu est ce qui procure dans sa vie le plus haut niveau de satisfaction. C'est ce qui suscite dans sa vie les engouements les plus durables, les plus forts, les plus engagés, les émotions les plus vives, les plus ardentes. Est-ce que je peux dire la même chose ? Est-ce que j'aime la parole de Dieu ? Vraiment ? Est-ce un amour infini que nous avons pour la parole de Dieu, pour lequel nous pourrions, comme le psalmiste, appeler Dieu afin qu'il en témoigne ? C'est ce que je viens de lire. Considère, ô Éternel, regarde, Seigneur, combien j'aime tes ordonnances. Regarde, prends-moi en flagrant délit d'aimer ta parole. Incroyable, la confiance de ce psalmiste dans le choix qu'il a fait d'aimer la parole de Dieu. C'est plus qu'une simple affection, une simple fierté. C'est une passion qui lui procure un niveau de contentement et de satisfaction quotidien, régulier et qui emporte son émotion. Pourrais-je m'exprimer librement en disant aux autres, en les croisant dans la rue, « La Bible, c'est super. C'est un livre qui me remplit de joie et de satisfaction. Plus je la lis, plus je me sens libre. Plus je la lis, plus je me sens instruit. Plus je la lis, moins j'ai de questions qui sont sans réponse. » Hier, on faisait les courses avec ma fille Maëva dans le supermarché près de chez la famille Glass. Et ma fille de 6 ans commence à chanter à tue-tête. Alléluia, j'aime le Seigneur, Alléluia. On passe dans les légumes, elle chante comme ça. On passe dans les gâteaux, elle chante comme ça. Ça m'a remis en cause. Je dis, quelle assurance, quelle foi, la foi des petits-enfants, la passion, la tranquillité. Hein? Et bon, je lui ai demandé de se faire un peu moins fort quand même, parce qu'il faut respecter aussi la quiétude des autres, et puis pas les harceler, mais ça m'a montré que je suis bien des fois très inhibé dans l'expression de ma capacité à témoigner de ce que j'aime. Cet homme a un amour infini, passionné pour la parole de Dieu. Peut-être vous avez cette passion. Peut-être vous l'avez en ce moment et elle s'est bien installée en vous. Peut-être elle est ponctuelle. Vous ressentez cela lorsqu'un orateur particulièrement éloquent a frappé votre attention. Vous avez compris de nouvelles choses concernant le plan de Dieu. Vous avez été frappé par la manière dont on pouvait s'exprimer au sujet de la parole de Dieu. Et puis vous êtes sorti de cet enseignement et votre cœur a changé, votre cœur s'est réchauffé. Vous avez pris des résolutions et puis c'est tombé, ça n'a pas tenu, pour lire la parole de Dieu, pour vous en nourrir, pour l'aimer davantage. Le psalmiste, on sent vraiment qu'il a fait vraiment un choix de vie, qu'il a engagé toute sa vie et qu'il en témoigne dans sa parole, dans cette parole, dans ce texte qui a été universellement lu de toutes les époques et sur tous les pays, son amour pour la parole de Dieu. Il considère la parole de Dieu comme quelque chose de sublime, comme un élément de sa vie qui est parfaitement admirable. Et c'est ce qui, je pense, en partie l'incite à l'aimer. Au verset 143, « Je suis dans la détresse, l'angoisse me saisit, mais tes commandements me font mes délices. » Verset 103, « Que ta parole est douce à mon palais, elle est meilleure que le miel ou que le chocolat suisse. » La loi que tu as édictée est pour moi plus précieuse que 1000 objets d'or et d'argent. Je désire ardemment que tu me sauves, ô Éternel, ta loi fait tous mes délices. Psaume, verset 174. Verset 127, un verset bien approprié pour nos pays civilisés et nantis. Moi, j'aime tes commandements plus que l'or, oui. Plus que leur fin. C'est en partie la prise de conscience de la valeur de la parole de Dieu qui suscite un si grand amour pour elle et anime la décision du psalmiste de l'aimer. Son attitude n'est pas l'attitude passive d'une personne qui écoute simplement ce qu'on lui dit, mais comme un chercheur d'or, il recherche, il désire, il prend la résolution d'accorder à la parole de Dieu une place majeure, essentiel dans sa vie. Il prend la décision de l'aimer. Écoutez bien ça. Il prend la décision de l'aimer. Il prend la décision d'en être passionné. Verset 92. Si je n'avais pas fait de ta loi mes délices, autrement dit, si je n'avais pas fait ce choix, j'aurais depuis longtemps péri dans ma misère. À un moment dans sa vie, peut-être c'est David, à un moment dans sa vie, il a eu un choix à faire. Un choix que l'on fait quand on est jeune, mais qu'on peut faire à tout moment. Un choix crucial. Et il a décidé d'aimer la parole de Dieu. Aujourd'hui, il voit que son choix était le bon. S'il ne l'avait pas fait, son sort aurait été misérable. Je repense à ma vie, si je n'avais pas obéi à la parole de Dieu pour attendre patiemment ma femme. Catastrophe. Je me serais complètement perdu, j'aurais fait du mal à tellement de personnes. J'aurais tellement péché. Mais simplement, promesse du Seigneur de pourvoir à tous nos besoins. Cette parole du Seigneur qui nous rappelle dans la Genèse que Adam ne se rongeait pas les sangs en attendant la promesse d'une épouse, mais qu'il laissait Dieu agir. Si cette parole ne m'est pas soutenue, mais j'aurais péri dans ma misère, j'ai décidé d'aimer la parole de Dieu, au moins sur ce point. Au verset 48, le psalmiste dit : Je tends les mains vers tes commandements, car je les aime. Je veux méditer sur tes ordonnances. Je veux, I want. Je veux, c'est un choix, j'ai décidé. Verset 30, j'ai choisi le chemin de la fidélité. Je me suis conformé à tes décrets. Verset 112, j'ai pris la décision d'obéir à tes lois constamment, pour toujours. Verset 106, j'ai promis solennellement et je tiendrai promesse d'obéir à tes justes lois. C'est pas ouais, cette année je vais commencer à prendre la bonne semence, et puis je sais au bout de 2 mois je vais commencer à lire une page sur deux, et puis etc. Non, j'ai pris un engagement solennel d'aimer ta parole, de la lire, de l'appliquer, de m'y conformer. C'est incroyable. Quel type, hein? Un amour infini, un amour passionné, un désir vital de se nourrir de la Bible, avec une perception de la Bible qui est devenue extrêmement positive et qui témoigne d'une résolution à chérir la Bible en reconnaissant sa valeur supérieure. Voilà ce que nous apprennent tous les versets que je viens de vous lire. Un homme qui a fait un choix de vie, son choix de vie, c'est de placer Dieu et sa parole au centre et au-dessus de tout, résolument, quoi qu'il arrive. Et il est à un stade de sa vie, il en tire le bénéfice. Et ça, c'est un encouragement pour nous. Alors, on ressort comment de ces paroles, de ces témoignages? Si vous êtes comme moi, vous en ressortez comme étant convaincu d'avoir affaire avec un être exceptionnellement consacré. Un amoureux de Dieu, un amoureux de la Bible qui semble hors de ma portée. Et c'est normal. C'est normal. C'est l'un des buts, je pense, de ce psaume. L'un des buts de ce psaume, c'est de nous indiquer une normalité pour Dieu à l'égard de sa parole qui ne correspond peut-être pas, ou pas encore, ou pas totalement, ou peut-être plus, à notre expérience avec la parole de Dieu. Ceci afin de nous élever à nouveau dans cette direction. Si on s'arrêtait là, je pense que la prédication serait terriblement décourageante et je serais très découragé parce que où est la rampe d'accès pour ressembler à cet homme? Où est l'ascenseur, l'escalator, l'échelle qui permet de s'approcher d'une telle proximité avec l'Écriture? Eh bien, je crois qu'on trouve le secret dans le même psaume. Autant ce psaume 119 nous parle de la parole de Dieu, autant plus je le lis, plus je suis convaincu qu'il parle tout autant, si ce n'est plus, de la prière. De la prière. Et cet homme exceptionnel, cet amoureux de la parole de Dieu, il fait des demandes tout à fait étranges, ou en tout cas qui vont nous surprendre si nous sommes faits de lui une très haute opinion au travers de ce que nous avons lu. Tout d'abord, il demande, dans certains versets, d'aimer la parole de Dieu. Verset 36. Veuille incliner mon cœur vers tes enseignements plutôt que vers mes intérêts. J'ai conscience d'être un homme tiraillé entre des choses qui me plaisent, comme le commun des mortels, et ta volonté qui est indépendante. Dirige mon cœur, donne-moi de l'amour pour toi, pour ta parole. Autrement dit, son constat, c'est qu'il en manque. Sinon, il ne le demanderait pas. Ce super héros de la parole de Dieu est un homme, mes amis, comme vous et moi, qui peut s'asseoir et dire à Dieu, « Seigneur, je n'arrive plus à aimer ta parole. » Verset 37. « Détourne mes regards des choses vaines et fais-moi vivre dans les voies que tu as tracées. » Il ne dit pas au Seigneur, « Je vais maintenant passer en position consécration et je me tourne vers toi, voilà, je suis prêt. » Non, il ne dit pas ça. Il demande le secours de Dieu, comme vous l'avez lu dans le psaume 46. « Détourne mes regards des choses vaines. » Il demande littéralement à Dieu de réorienter son attention. Verset 18. Ouvre mes yeux pour que je voie les merveilles de ta loi. Je regarde, je lis ta parole, mais je ne la comprends pas. Je ne peux pas en saisir la beauté, le sens. Interviens, ouvre les yeux de mon cœur. Verset 27. Fais-moi discerner le chemin tracé par tes décrets pour que je réfléchisse à tes merveilles. Verset 19. Je suis étranger sur la terre, ne me cache pas tes commandements. Ce super héros de la parole de Dieu, cette superstar, ce méga pasteur, tel qu'on l'a décrit dans la première partie de ce message, nous apercevons que c'est un homme qui fait connaître à Dieu ses besoins les plus fondamentaux. C'est un homme humble, qui connaît sa misère, qui comprend sa faiblesse, qui ne se complaît pas dans une réputation que les autres auraient pu lui donner. Tout cela, ça ne joue pas devant Dieu. Quand on est seul devant le Seigneur, tout ce qui est porté par le regard des autres, ça disparaît. Verset 12, « Enseigne-moi tes ordonnances. » Il demande à Dieu non seulement d'aimer sa parole, mais de pouvoir l'apprécier, comprendre la valeur de l'enseignement. Verset 33, « Enseigne-moi le chemin. » Enseigne-moi, verset 64, enseigne-moi tes volontés. Enseigne-moi tes volontés, 124. Enseigne-moi, 135, tes volontés. Enseigne-moi tes décrets, verset 108, verset 26. Apprends-moi tes commandements, verset 144. Fais que je les comprenne et je vivrai. C'est essentiel pour moi, Seigneur. Je sais qu'on ne peut vivre vraiment en communion avec toi que lorsqu'on comprend ta parole et qu'on l'applique. Mais je ne peux pas la mettre en pratique. J'y arrive pas, je suis faible. Aide-moi, je sais que c'est la meilleure chose à faire. Viens m'aider. Non ? C'est ce qui ressort. Le psaume 119, ce n'est pas simplement un psaume qu'on lit près de la cheminée. Qu'il est beau ce psaume. Non, c'est un psaume intense, il y a une intensité terrible qui ressort de ce psaume. Il demande à Dieu aussi d'avoir de bonnes dispositions. Ne m'abandonne pas complètement, verset 8. Cher, j'observerai fidèlement tes ordonnances. Ne permets pas que je dévie de tes commandements, verset 10. Fais-moi du bien, accorde-moi de vivre, j'obéirai à ta parole. J'ai même besoin que tu crées les conditions dans ma vie pour que je puisse obéir à ta parole en bonnes conditions. Tout dépend de toi, Seigneur. Verset 17. Fais du bien à ton serviteur, accorde-moi de vivre, j'obéirai à ta parole. Que mon cœur soit intègre, verset 80. Poursuive tes préceptes, alors j'éviterai la honte. Purifie-moi, protège-moi du péché. Comme le Seigneur Jésus nous enseigne de prier chaque jour, Seigneur, notre Père, garde-nous du mal. Sois mon appui, et je ne perdrai jamais de vue tes ordonnances. Libère-moi de l'oppression des hommes, et j'observerai tes préceptes. De tout mon cœur, je fais appel à toi. Réponds-moi, j'obéirai à tes décrets. Secours-moi, je garderai tes préceptes. Écoute-moi. Et fais-moi vivre selon tes ordonnances. Il a tellement besoin du Seigneur. Il a tellement besoin de lui. parce que c'est un homme qui connaît des difficultés avec des personnes qui ne vont pas dans son sens. Il a des opposants, et si c'est David, on voit tout de suite dans quel contexte on se trouve. Mais c'est un homme qui a fort affaire avec des ennemis qui ne vont pas dans son sens. Et il demande le secours de Dieu, toujours pour avoir de bonnes dispositions pour sa parole. Il lui demande un certain nombre de qualités pour obéir, l'intelligence. Il lui demande le discernement. Au verset 5, il lui demande aussi de la fermeté, que j'ai assez de fermeté pour observer tes ordonnances. Il demande à Dieu, bien sûr, sa grâce et une délivrance extrême dans bien des passages de ce psaume. Délivre-moi du déshonneur et du mépris, car j'observe tes lois. Je suis collé à la poussière, rends-moi la vie selon ce que tu as promis. Je suis accablé de chagrin, relève-moi conformément à ta parole. Il fait des demandes de pardon et de grâce et d'amour. Détourne-moi du chemin du mensonge et dans ta grâce, fais que je vive selon ta loi. Manifeste-moi ta tendresse pour que je vive, puisque ta loi fait tous mes délices. Je suis errant comme une brebis égarée. Viens chercher ton serviteur, car je n'oublie aucun de tes commandements. Je suis long parce que le psaume 119 est long. Et je vous en dis qu'une partie. Je vous invite vraiment à le lire, à vous mettre à la place du psalmiste et à le méditer pour vous-même. Nous voyons que nous avons affaire à un homme fragile, un homme de la même nature que nous, un homme qui sait ce qui est bien, aimer la parole de Dieu et ce qui est bien, la chérir et la mettre en pratique et ce qui est bien, mais nous avons affaire à un individu qui a conscience de ses limites, de ses faiblesses, qui sait que les soucis et les inquiétudes, comme dit le Nouveau Testament, peuvent nous recouvrir très très facilement et que nous devons les rejeter, ainsi que le péché. Et il a conscience de tout cela. Il n'est pas en train de se présenter comme un super-héros de la foi, mais comme un serviteur fidèle qui veut rester attaché à son Dieu. Tout ce qu'il a appris dans la parole de Dieu l'aide à prier, et tout ce qu'il prie l'aide à aimer la parole de Dieu. Je pense que c'est particulièrement important pour nous, si nous avons des difficultés à lire la parole de Dieu, à la lire en famille, à la méditer dans la journée, à rechercher des principes de sagesse pour les moindres détails de notre existence. Je sais que dans cette assemblée, vous êtes très bien nourris, que vous avez un excellent berger, qui m'a moi-même communiqué l'amour de la parole de Dieu. Mais je sais aussi qu'on peut très vite se laisser emporter par d'autres affections, par d'autres préoccupations, par une forme de routine nonchalante qui peut nous éloigner du Seigneur. Et je voudrais vous encourager à méditer sur la nécessité pour vous d'avoir un thermomètre qui indique 119 et de ne pas vous contenter d'un amour passager, succinct, élémentaire pour la parole de Dieu, mais de vraiment vous en faire une passion. Le Seigneur demande ça. Le Seigneur veut ça. Veut que sa parole brûle dans nos cœurs. Veut qu'on ait le désir de la mettre en pratique, le désir de la transmettre, le désir de la méditer. Je repense souvent dans ma vie à un certain nombre de versets que j'ai appris après ma conversion. J'ai utilisé un outil de mémorisation de versets bibliques, peut-être vous avez fait ça. Et ces versets bibliques fondamentaux me servent toujours aujourd'hui pour lutter contre la tentation ou pour résister quand je me sens impatient, par exemple. J'imagine que ça vous arrive aussi, surtout quand vous vous perdez. Donc, des versets qui sont tellement installés dans mon cœur, paf! Quelle que soit ma pensée, mes préoccupations, ils sortent. Vous savez, quand on appuie sur une savonnette, essayez d'attraper une savonnette mouillée. C'est pareil, c'est des versets qui, paf, qui sortent, qui jaillissent dans mon cœur. C'est vraiment, vraiment, vraiment très, très utile. Je voudrais lire avec vous aussi l'avantage, bien sûr, d'aimer la parole de Dieu et quelques lignes du psaume 119 à son tout début. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Puissent mes actions être bien réglées afin que je garde tes statuts. Alors je ne rougirai point à la vue de tous tes commandements. Je te louerai dans la droiture de mon cœur, en apprenant les lois de ta justice. Je veux garder tes statuts. Ne m'abandonne pas entièrement. Une motivation pour aimer la parole de Dieu, c'est bien sûr ce que nous trouvons au début de ce psaume. Une double promesse de bonheur. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur. C'est une incitation au bonheur que de vouloir aimer la parole de Dieu. C'est une incitation au bonheur qui nous permet de trouver notre satisfaction lorsque Dieu est comblé. Parce que la loi que nous devons suivre, ce n'est pas une loi humaine. Ce n'est pas une morale contemporaine ou citoyenne. C'est la loi de Dieu, sa parole vivante. Celle qu'il a inscrite dans nos cœurs, celle que Jésus-Christ a parfaitement accomplie par sa vie, par sa mort et sa résurrection, celle qui vient de Dieu, qui nous a été révélée. Et lorsque nous cherchons à appliquer cette parole, nous cherchons le bonheur, mais quel bonheur ? Le nôtre, bien sûr le nôtre, mais avant tout celui de Dieu, la satisfaction de Dieu. Nous cherchons à combler le cœur de Dieu. Ça, c'est incroyable. Il y a beaucoup de personnes, il y a un sondage qui a été fait en France sur les moins de 30 ans, il y en a les deux tiers qui ne pensent pas pouvoir trouver le bonheur. Nous avons entre les mains le secret du bonheur. Ce bonheur est révélé par la parole de Dieu et par Jésus-Christ. Et il ne se trouve pas dans la satisfaction de nos plaisirs et de nos appétits, mais il se trouve dans la recherche du bonheur pour Dieu. C'est dingue, comme dirait John. Je ne sais pas s'il dit ça à l'époque à Rueil. Tous les messages, c'est dingue, hein ? Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a aidé à comprendre comment orienter ma vie. Je vais trouver la satisfaction pleine et entière en recherchant celle de Dieu. Tout va venir après parce que Dieu veut que nous soyons aussi heureux. Voilà, nous sommes tous invités à aimer passionnément la parole de Dieu, à la chérir, à nous en nourrir, à renouveler cet amour si c'est nécessaire pour vous aujourd'hui. Je vous invite à le faire sans honte, sans crispation, sans culpabilité, car l'exemple de ce psalmiste qui se considérait comme plus bas que tout, ce psalmiste qui vraisemblablement a connu de bien des déboires et qui a comparé une vie difficile avec une vie marquée par la parole de Dieu, ce psalmiste nous montre quand on fait un choix solennel, un choix ferme d'aimer sa parole, on ne le regrette pas. On regarde en arrière et on est comblé. Même quand c'est dur, même quand c'est difficile, si vous aimez la parole de Dieu, ne vous endormez pas. Ne vous dites pas « ça y est, j'ai des responsabilités dans l'église, j'enseigne ». On me connaît des qualités oratoires ou d'enseignement. C'est bon, la route est tracée, j'ai arrivé, j'ai atteint le stade ultime. Ne vous dites pas ça, et je le dis à moi-même aussi. Je me reprends moi-même en premier, moi en tout premier. Ne te dis pas ça, Jean-Pierre, c'est un leurre. Regarde ce psalmiste qui connaît 100 fois mieux la parole de Dieu que toi, qui en maîtrise parfaitement le fond et qui peut en exposer la forme grâce au Saint-Esprit d'une manière tellement merveilleuse. Eh bien cet homme n'a pas honte de dire qu'il était collé dans la poussière pour réclamer de Dieu qu'il puisse aimer sa parole infiniment, passionnément, à la folie. Surtout pas du tout. Donc soyez vraiment encouragés. Quel que soit le stade où vous en êtes, la situation dans laquelle vous vous trouvez, Peut-être vous constatez que vos jeunes, vos enfants ont du mal à aimer la parole de Dieu. C'est ce qu'on a décidé de prier, nous, à l'église cet été. Seigneur, donne de l'amour à nos enfants, à nos jeunes, pour la parole de Dieu. Parce que toutes nos structures, toutes nos organisations, tout nos rassemblements, toutes les choses qu'on met en place, si les uns et les autres n'ont pas cet amour vissé dans le cœur pour la parole de Dieu, ça va retomber comme un gâteau au fromage. Allez, mental. Hein? C'est vraiment, 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 vraiment important. Et je ne saurais que vous encourager, si vous le souhaitez, à prier dans ce sens. Et c'est dans ce sens que je vais finir par la prière, si je peux. Aimer la parole de Dieu, vraiment. Seigneur, oui, c'est notre désir. En tout cas, c'est le désir de mon cœur. Seigneur, que tu éloignes de moi mes intérêts. Que, Seigneur, tu détournes mes regards des choses vaines, vers lesquelles je suis naturellement enclin à regarder, à cause de mon péché ou de ma faiblesse. Je te prie, Seigneur, pour moi et pour mes amis, ici présents, pour que tu continues, Seigneur, à alimenter en eux cet amour pour ta parole. Aide-les, Seigneur, à rechercher un haut niveau d'amour pour ta parole. Non seulement lorsqu'ils écoutent une prédication, mais surtout et encore plus lorsqu'ils se retrouvent en face à face avec toi. Motive-les à s'engager dans les groupes d'études, dans les groupes de maison. Motive-les, Seigneur, à prier pour réclamer tout ce qu'ils constatent ne pas avoir dans leur vie, pour être au niveau de ce psalmiste. Seigneur, fais-leur du bien. Merci pour John, que tu leur as donné, qui est un bon berger, qui aime vraiment ta parole et qui peut leur communiquer encore et encore cet intérêt. Seigneur, fais-nous du bien. Donne à nos enfants, donne à nos jeunes cet amour que nous pouvons leur transmettre, mais que seul toi, tu peux leur communiquer au fond de leur cœur. Seigneur, merci pour Jésus qui aimait ta parole, qui orientait sa vie en fonction d'elle. Merci, Seigneur, pour son sacrifice qui nous a déclarés justes. Merci, Seigneur, pour sa résurrection et son retour. Merci, Seigneur, parce que tu veux nous combler aujourd'hui dans l'attente de son retour par un amour ardent pour toi et pour ta parole. Demeurez en moi et dans ma parole, celui qui demeure en moi et dans ma parole accomplit la volonté de Dieu. Elle nous rappelle le Seigneur Jésus. Aide-nous à agir ainsi pour ta gloire. Amen.